Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 58. Cette émission est avec mon ami Olivier Similière Cordonnier, auteur du beau blog, le blog du communicant 2.0. Avec un œil de journaliste et une belle carrière dans la communication en entreprise, Olivier est un homme à la croisée de plusieurs sujets clés pour les hommes et les femmes de marketing. Ensemble, nous avons discuté de pourquoi et comment le rôle du communication corporate est en train de prendre un grand virage. On a également parlé des activités de communication digitale des hommes et des femmes politiques en France, un bilan bien tranché. Enfin, nous avons échangé sur les médias en France et qui est en train de prendre une bonne tournure sur le web. Je suis persuadé que vous apprécierez l'échange. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Hello, bonjour. Bienvenue au show radio Minter Dialogue. Nous sommes le 24 mars, une belle journée de printemps, mais on dirait l'été. Aujourd'hui, je suis avec un ami et quelqu'un de fondamentalement intéressant qui s'appelle Olivier Similière Cordonnier. Alors, Olivier, c'est quelqu'un qui est formé journaliste, qui a toujours eu dans l'âme communication et journalisme. Il a démarré d'ailleurs dans le PQR et la radio. Ensuite, il a passé 13 ans chez Nestlé dans la division Waters autour de la communication. Après, il a fait 3 ou 4 ans chez Ericsson en tant que vice-président Corporate Communications d'Ericsson France. 1 an chez Google, en responsable de la communication et des affaires publiques de Google France. Et depuis, il est consultant et maintenant, et toujours d'ailleurs, l'auteur du fameux blog, le blog du communicant 2.0, qui est un grand blog, je vous invite à y aller regarder, 45e sur Alexa en France, qui est formidable pour un individu, et qui a écrit par ailleurs plus de 35 articles sur le plus de nouvelles obs. Donc Olivier, bienvenue au show. Je suis ravi de t'avoir, ça fait plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux raconter pour nous un peu, pour toi, par rapport au métier de la communication, comment tu trouves ce métier de la communication et comment, en particulier, ce métier est en train de changer aujourd'hui ?
Il est clairement en pleine mutation. Notamment avec l'avènement de ce qu'on appelle le 2.0, les médias sociaux, clairement le métier est en train de muter. Les contours sont encore un petit peu difficiles à cerner, mais on entre dans une nouvelle ère. Pour moi, c'est la troisième ère de la communication, parce que finalement la communication est un métier jeune. Il est apparu il y a une trentaine d'années, enfin en tant que fonction dans les entreprises. Bon, au début, la communication, c'était une chose très simple. C'était plus le préposé au petit four, aux paillettes, aux fêtes, enfin, un peu le show. C'était un peu ce qu'on appelait toujours la danseuse du président. Et puis, ça s'est professionnalisé. On est passé à l'étape 2, qui est là le communicant en tant que j'élabore et je diffuse des messages par tous les canaux qui sont mis à mes moyens vers des publics identifiés. Aujourd'hui, on attaque l'étape 3. Où ces mêmes publics ne sont plus seulement des récepteurs, mais aussi des émetteurs. Et c'est ce qui complexifie grandement le métier de communicant, parce que maintenant, on reste toujours bien sûr émetteur, mais on doit rentrer dans la conversation avec ces publics. Chose à laquelle beaucoup de communicants n'étaient pas forcément habitués, parce qu'on était plus dans une démarche qui empruntait beaucoup à la publicité, au marketing, je suis le meilleur, mon produit est le plus beau, j'ai les meilleures qualités. Alors qu'aujourd'hui, on est dans les logiques où même si vous ne parlez pas de vous, on parle de vous à votre place. Et votre réputation se construit avec ou sans vous, que vous le vouliez ou non. Alors qu'avant, la réputation, on la contrôlait, on la maîtrisait, on diffusait les messages qui allaient bien pour convaincre les gens, ça c'est terminé. Et c'est vraiment là où la fonction de directeur de la communication évolue, et je crois que peut-être à l'avenir, même ça englobera, ça ira au-delà de la communication, sera peut-être un directeur de la conversation, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le chemin qu'on emprunte clairement. Alors, il avancera à mesure des évolutions culturelles, mais c'est clairement une nouvelle étape qu'on amorce.
Alors, Olivier, qui a travaillé dans plein d'entreprises avec plein de PDG, imagine que tu as en face de toi un PDG et tu dis, voilà, écoute, comment ça doit changer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un PDG fasse, intègre comme état d'esprit pour que la communication dans cette nouvelle ère conversationnelle s'intègre ?
Ben justement, de converser. Et ça, c'est une grande difficulté, enfin pour ce que je connais en France essentiellement. Si on observe sur la toile, par exemple, le CAC 40 simplement, vous n'avez que sur les 40 donc PDG du CAC 40, eh bien il n'y en a que 3 qui sont présents sur Twitter. Et sur les 3, il n'y en a que 1 qui tweet un tout petit peu. Et encore, c'est un PDG, on va dire, international, puisque c'est Lakshmi Mittal. Donc on peut supposer qu'il a une vision plus large. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les présidents ont encore une approche très top-down de la communication, très mes cercles, mes réseaux. Je suis voilà dans une communication parfois même incantatoire, alors qu'ils auraient tout intérêt justement à être des influenceurs aussi. Alors bien sûr aidés par leurs équipes, ça suppose pas que le président fasse tout seul. On sait bien que l'agenda d'un CEO c'est extrêmement chargé. Mais qu'ils deviennent un personnage qui participe à la conversation, parce que, pour l'avoir vécu, les gens aiment bien rencontrer justement les décideurs, aiment bien échanger avec eux, aiment bien les challenger aussi, et ça contribue à la réputation maintenant d'une société. Et le fait d'avoir un président engagé au contact des publics est un atout, à mes yeux, pour une entreprise.
Alors, la difficulté qu'on va rencontrer aussi bien aux États-Unis qu'ici, c'est que... Quelle est la part de la personnalité de la personne qui doit participer dans cette communication ? Tu as un PDG, tu as un axe de communication, mais à combien est-ce qu'on peut accepter la personnalité du PDG de ressortir ? Comment est-ce que tu gères ça ?
Alors là, ça, c'est une vraie question que je me suis moi-même posée quand j'ai ouvert mon blog, puisque à l'époque, j'étais directeur de la communication d'Ericsson. Donc d'emblée, c'est posé le problème qui se pose également à un PDG, ou je dirais à tout dirigeant prenant la parole sur la toile, jusqu'où je peux aller dans mon expression personnelle sans me mettre en porte-à-faux dans mon rôle professionnel et donc la réputation de mon entreprise. Et là, je dirais, il n'y a pas de recette magique. Il faut savoir donner quand même un peu de sa personne, parce qu'on ne peut pas être dans le discours complètement moulé, calibré, lissé, comme parfois on en a exagérément dans les entreprises. Ça, c'est pas possible, ça ne marchera pas. De toute façon, on verra très vite que c'est pas sincère et ça n'attirera pas les gens. Pour autant, on ne peut pas se permettre non plus d'aller complètement dans la polémique. Alors certains blogueurs le font, mais parce qu'ils sont que blogueurs et donc peuvent s'autoriser des postures plus extrêmes.
Moins institutionnelles.
Quand vous êtes un dirigeant qui est représenté une institution, une marque, enfin quelque chose d'officiel, c'est clair qu'il faut jongler un petit peu avec ça. De savoir être... faire part de sa personne aussi, parce que après tout, on peut être PDG et aussi avoir sa personnalité. On n'est pas simplement un pion. Donc voilà, c'est vraiment un peu au feeling qu'on donne des informations, qu'on exprime des points de vue. Moi, par exemple, il y a un blog que j'aime bien lire, c'est celui de Françoise Gris, qui est PDG de Manpower. Elle écrit alors en tant que PDG de Manpower, mais on sent bien que par moment il y a des points de vue personnels qui sont exprimés. Alors bien sûr des points de vue, on va dire assez policés, parce que là encore elle représente une grosse société, donc elle peut pas se permettre, par exemple des attaques contre le ministre du Travail. Ça pourrait là créer pour le coup des conflits d'intérêts dommageables. Mais on sent qu'il y a une réflexion derrière. C'est pas simplement un discours qui est dévidé comme ça pour faire bien, pour être patron hype à la mode. Donc je crois que c'est ça, c'est la sincérité, l'authenticité, savoir donner un petit peu plus que voilà le discours tout calibré, et à partir de là laisser exprimer sa personnalité tout en bien sûr gardant un certain contrôle, mais comme on fait dans la vie réelle, j'ai envie de dire, quand vous êtes dans une convention ou un événement professionnel. Vous adoptez aussi des codes de conduite, c'est exactement pareil sur la toile.
Ce que je sens, c'est qu'il y a cette nouvelle génération dans les écoles, et les jeunes de façon générale, qui sont plus à l'aise avec ce côté personnel, qui recherchent ça dans la communication, qui, avant de rentrer, s'il y a quelque chose un peu plus personnel, ça me plairait. Tandis que, on va dire, la vieille école reste encore sur ses contrôles, et il y a un dichotome, parce qu'on doit attirer ces nouveaux, donc il y a un intérêt business pour rajouter ce côté personnel. Tandis qu'il y a encore ces a priori, je ne peux pas faire ça, c'est pas comme ça, c'est pas noble de faire ça. Est-ce que tu as senti ce même problème ?
Oui, bah c'est vrai que la nouvelle génération, elle, elle est quasiment née avec Facebook, Twitter, etc. Et celle qui va venir encore après, ça sera probablement encore une autre histoire. Mais eux, à contrario, paradoxalement, là je vais parler peut-être un peu en vieux, bien que je sois pas si vieux que ça, mais à 45 ans, voilà, à chacun de juger. Mais eux, justement, je pense que là, il y a une éducation à faire vis-à-vis des réseaux sociaux, à ne pas forcément tout déballer, à savoir aussi cloisonner, mais dans le sens pas cacher pour cacher, mais simplement
modérer.
Encore une fois, comme on est dans la vie réelle, vous ne comportez pas de la même manière avec vos proches, votre famille, qu'avec des copains de foot ou avec votre patron, votre assistante ou vos collègues, etc., etc. Ben, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Et ça, c'est vrai qu'il y a une éducation qu'ils n'ont pas forcément, parce que quand je vois certaines pages Facebook d'ados ou de jeunes adultes, je suis parfois étonné par les photos qu'on peut trouver et qui peuvent d'ailleurs être gênantes pour leurs propres amis, etc. Et eux, c'est vraiment dans le sens inverse, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin.
C'est comme l'histoire de la transparence. La transparence est bien, mais pas tout. Et l'authenticité, c'est en fait, c'est pas forcément de tout montrer, mais être intègre avec soi-même. Donc après, on est toujours la même personne, mais on a un bout de plus vis-à-vis de ses proches. Alors, tu as parlé, quand on discutait avant en déjeuner, très sympathique au soleil, on a parlé des relations publiques. Explique-nous ton point de vue, parce que je trouvais très pertinent comment tu décodes le mot relations publiques par rapport à l'américain.
Oui, pour moi, en français, souvent, relation publique, c'est assimilé à relation publicitaire ou relation publique dans le sens officiel. Je fais quelque chose au su et vu de tous. Ça, c'est l'approche française. Voilà, il y a un côté, encore une fois, marketing. Alors que pour moi, relation publique, c'est vraiment entrer en relation avec des publics, puisque l'entreprise ou une marque s'adresse toujours à des publics différents, selon le secteur d'activité, selon les produits vendus, et c'est de tisser des relations. Alors pendant longtemps, la relation a été un peu unilatérale, c'est l'entreprise ou la marque vers ses publics. On a vu tout à l'heure que maintenant, c'est bilatéral, c'est vraiment dans les deux sens, et ça peut être même unilatéral dans l'autre sens, c'est-à-dire même si vous, en tant que marque ou entreprise, vous choisissez de ne pas parler, de ne pas apparaître, vous apparaîtrez de toute manière. Donc voilà, c'est moi, ce mot public, c'est dans le sens des publics, des audiences, des communautés, des groupes, des individus parfois. C'est vraiment ce sens-là que je l'entends, et où on l'entend d'ailleurs le concept anglo-saxon aussi. Je me sens très proche de ça.
Plus dans la relation. Alors, on va parler politique, Olivier, parce que tu connais beaucoup, tu écris plein là-dessus aussi. On est le 24 mars, donc on est à un mois et demi des élections. Qu'est-ce que tu penses du travail des hommes et des femmes politiques aujourd'hui sur leur côté, on va dire, social, média, éventuellement RP? Comment tu trouves ?
Globalement, après on pourra parler de quelques exceptions, je trouve que ce qui est fait en France, dans le milieu politique, tout bord confondu, c'est la réplication de ce qu'ils ont toujours fait sur les autres outils de communication. On est dans la communication de l'incantation, dans la communication qui délivre des messages. Et alors là, on le voit encore plus parce que, bien sûr, on est en période d'élection présidentielle. Mais quand je suis les comptes d'hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ce sont toujours des messages, des formules, des slogans ou alors de la polémique pour la polémique. Mais il n'y a pas vraiment de conversation dans tout ça. Parfois, il y a les fameux tweet clash parce que, bon, voilà, on s'énerve un peu, on se lâche. Mais grosso modo, il n'y a pas vraiment de fond, alors que ces outils-là, ils sont faits pour la relation, le partage, l'échange, la confrontation, bien sûr, de point de vue. Et ça, je ne retrouve pas beaucoup ça.
Pourquoi ?
Je pense que c'est difficulté à appréhender toute la substance des réseaux sociaux et puis à sortir un peu de sa zone de confort. C'était toujours plus facile de diffuser et puis à chacun de répandre. Quand vous allez sur les sites web des candidats, globalement, c'est plus le parfait petit kit du militant qui parle qu'un parti qui donne un projet, qui invite les gens à réagir. Alors en 2007, Ségolène Royal avait essayé cette fameuse démocratie participative. Bon, le problème, c'est que le site était vraiment raté déjà d'un point de vue purement organisation et ergonomie. Et ça avait, c'était pas bien modéré, c'était un peu le foutoir. Donc ça n'avait pas pris, c'était probablement peut-être aussi un peu tôt en termes d'usage. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, le 2.0, c'est une réalité quand même pour beaucoup de gens, mais on voit que les politiques ont très peu évolué. À titre individuel, il y en a quelques-uns, en revanche, qui ont compris l'intérêt et qui en font un usage, je trouve, plutôt intelligent. Je vais en citer un. Alors, il n'y a aucune connotation politique, loin de là, mais j'ai eu l'occasion déjà de le rencontrer dans mes activités professionnelles lorsque j'étais chez Ericsson. C'est Éric Besson, donc l'actuel ministre de l'Industrie, enfin, en tout cas jusqu'aux élections, qui a ouvert un compte Twitter et qui tweet beaucoup. Ça lui a même été pendant un moment reproché, puisqu'on disait qu'il était démotivé, qu'il faisait plus que ça, comme s'il tweetait, ça prenait 24 heures dans une journée.
C'est pour dire à combien les gens méprisent ou ne comprennent pas les réseaux sociaux, pour dire des choses comme ça.
Ah, clairement, c'est un indice effectivement de l'incompréhension totale. Les gens ont l'impression que dès qu'on lance un tweet, ça nous prend 3 heures. C'est en fait
ou ça sert à rien. C'est-à-dire, on les prend pas à sérieux.
C'est un gadget. C'est pas sérieux. C'est un truc d'ado, de geek. Mais bref, un politique devrait pas s'en mêler. Je trouve ce que fait Éric Besson, alors il a commis des petites bourdes aussi, des fois il révélait des trucs qu'il n'aurait pas dû.
J'ai envie de dire, c'est normal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un peu transparent, enfin un peu authentique, on fait tous des conneries. Donc c'est un peu normal de faire des bêtises, et puis si on ne fait pas de bêtises, on essaie toujours de policier, garder propre et contrôler toujours l'image, on ne pourra pas faire des bêtises, mais on ne pourra jamais se lancer non plus.
Exactement, et lui a, là-dessus a un ton plutôt sincère, alors il le dit clairement, il parle sous contrôle aussi, parce que justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, il sait qu'il est aussi quand même ministre de la République et qu'à ce titre, il peut pas non plus quand même dire tout et n'importe quoi, mais il a une certaine liberté de ton, d'ailleurs à tel point qu'avec son équipe, son cabinet, il organise ce qu'il appelle des tweets apéros. Moi j'ai eu l'occasion de participer à l'un d'entre eux, j'étais assez curieux de voir une autre facette du personnage que j'avais connu dans un cadre strictement professionnel. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait.
Il y avait combien de personnes ?
On était une bonne vingtaine de blogueurs qu'il avait repéré parmi ceux qu'il suivait et puis qui interagissaient avec lui ou qui tweetaient souvent des choses qu'il avait lui-même publiées. Et on pouvait poser toutes les questions. Et il répondait vraiment avec une vraie franchise. Et quand il ne pouvait pas ou ne voulait pas pour des raisons justement politiques, etc., il le disait clairement. Mais il avait su tisser un lien, et je crois que cette interaction-là, les politiques devraient vraiment de plus en plus s'en emparer. Alors il y en a quelques autres maintenant, il y a une Cécile Duflo qui est plutôt active, un Benoît Hamon à gauche aussi, Nathalie Kosciusko-Morizet, et puis des moins connus qui sont, je trouve, aussi pas mal actifs, mais je pense notamment au député Lionel Tardy de l'UMP, qui est très actif, qui avait même retweeté des séances de l'Assemblée nationale. Ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Mais voilà, ce sont des outils de dialogue et je crois qu'aujourd'hui, ils sont malheureusement sous-utilisés par les politiques.
C'est quand même dingue parce qu'en fait, en 2007, on a loupé la coche. On va dire, il y avait Royal qui a essayé. Ensuite, 2008, Obama, il montre à peu près comment faire. Et puis tout d'un coup, 4 ans plus tard, on aurait imaginé qu'on a compris que c'est sérieux. Mais on a loupé l'occasion. Pour moi, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été un moyen formidable de montrer le chemin et d'amener plus de gens de tout niveau à se dire « c'est là où ça se passe, allons-y, attaquons ». Mais on a loupé. Alors je voudrais revenir sur un autre sujet qui t'est proche, qui est les médias, parce que eux aussi sont évidemment front and center, on va dire, sur la frontière de tout ce qui passe en 2.0, la conversation, ils étaient dans une démarche avant 1.0, ils arrivent sur 2.0. Pour toi, sur la France, quels sont les médias qui sont en train de prendre la bonne tournure par rapport à 2.0?
Pour moi, il y a deux grandes catégories. Il y a les médias traditionnels, alors qui ont opéré ou commencent à opérer une mutation parfois très douloureuse, très dans la résistance. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de très bons exemples. Alors, c'est souvent lié d'ailleurs aux personnalités des managers à la tête de ces médias. À mes yeux, les trois qui incarnent, j'irais, qui vont vraiment de l'avant maintenant, c'est Le Monde, avec Eric Israelevitch, qui a vraiment, en peu de temps, apporté beaucoup de rénovation dans Le Monde, en rassemblant les gens de l'édition web et ceux du papier, en essayant de faire écrire les journalistes aussi bien pour le web, pour le papier, etc. Ça a l'air de rien, mais rien que ça, c'était déjà des murs entiers à abattre dans les rédactions. Il y a l'Express, il y a le Nouvel Observateur, qui sont des médias qui progressivement ont su s'ouvrir, ont su s'emparer du web, à faire du live, à agréger des communautés. Tu l'as mentionné tout à l'heure, moi j'écris pour Le Plus, par exemple, qui est une extension du nouvelops.com où chacun écrit sur son domaine d'expertise. Et donc, voilà, ils rentrent en conversation avec nous, ils nous permettent de nous exprimer, c'est modéré par des journalistes. Donc ça montre bien que les médias traditionnels commencent à bouger. Surtout ceux du print, puisque ça a été les premiers impactés par la révolution 2.0. Maintenant, l'autre révolution qui se prépare, ça va être la télévision 2.0 aussi, la social TV. Là, on est encore au balbutiement. Et là, mon sentiment, c'est que les chaînes traditionnelles vont passer probablement par les mêmes épreuves que les médias papier. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le déni ou dans le refus et songent plus à monter des barrières et des murs pour se protéger qu'à aller plus de l'avant, même s'ils font des choses, ils ne sont pas inactifs non plus, mais on sent bien qu'ils sont vraiment dans la résistance. Il faudra qu'ils mutent. Après, la deuxième catégorie que j'évoquais, ce sont les fameux pure players. Alors, il y a eu la première génération, Rue 89, Mediapart, notamment, qui ont réussi, finalement, en peu de temps, à être des marques. Parce que Mediapart, maintenant, ça parle à tout le monde. C'est le site qui fait de l'investigation. Rue 89, c'est un site reconnu aussi, qui a un bon lectorat, même si, financièrement, il n'avait pas trouvé son équilibre et... En se faisant racheter par le Nouvel Observateur, là, il s'est donné de la perspective et une durée de vie nettement plus assurée. Et puis, il y a tous les nouveaux qui sont arrivés. Moi, il y en a un vraiment particulièrement que j'aime beaucoup, c'est quoi.info. Le principe est très simple, c'est de répondre chaque jour à 10 questions issues de l'actualité. Sur, par exemple, ça va être répondre à qu'est-ce que la TVA ou à quoi est due l'augmentation du prix du pétrole. Mais des questions toujours liées à l'actualité sous forme de petites fiches.
Éducatif,
informatif, c'est vraiment, on est vraiment sur du fait, rien que du fait, à l'anglo-saxonne, des papiers courts, bien structurés, que les gens peuvent amender si besoin, en apportant des informations supplémentaires. Et puis le journaliste documente aussi son papier pour celui qui voudrait creuser telle ou telle notion. Et il y a souvent des pièces jointes à l'article, soit des rapports, des livres blancs, enfin des choses qui permettent d'approfondir. Ça, je trouve que ce site vraiment a créé une niche qui n'existait pas. Et Cyril Franck, un des deux fondateurs que je connais, est assez optimiste sur, en tout cas, leur vitesse de déploiement. Aujourd'hui, ça marche bien. Ils ont assez vite acquis une belle visibilité. Ils sont bien sûr encore loin du compte, mais enfin, ça, ils n'ont que 4 mois d'existence. Hein, donc c'est...
Bravo. Donc, je mettrai ça dans les show notes. Il y a deux choses en t'écoutant. Le premier, c'est quel est le rôle de journaliste dans cette nouvelle ère ? C'est-à-dire, on va dire structurellement, politiquement, il faut faire web first ou pas, et comment intégrer. Mais le journaliste qui écrit, comment est-ce que tu vois le rôle de journalisme dans ce 2.0 ?
Alors pour moi, dans le 2.0, le journaliste, il a une opportunité en or. Contrairement à certains qui disent c'est la fin du journalisme, c'est la mort des journaux, c'est la mort de la presse, parce que maintenant, de toute façon, tout le monde écrit, tout le monde a les moyens d'émettre. Eh bien, justement, parce que tout le monde a les moyens d'émettre, le journaliste a encore plus sa place. Alors, son rôle évolue. Il va continuer, bien sûr, à faire ce qu'il a toujours fait, enquêter, recouper les faits. Mais ça va être, alors, c'est un mot qui n'existe pas en français. En tout cas, j'ai pas trouvé d'équivalent, mais le fameux news curator, qui est voilà, une sorte de filtre, mais pas filtre dans le sens censure, mais filtre dans le sens hiérarchisation, mise en perspective, contextualisation de l'information. Puisqu'on est tous tellement inondés de flux d'infos partout, il y a un moment où nous-mêmes, on n'est plus en capacité forcément de distinguer le bon grain de l'ivraie et de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est le travail du journaliste. Et ça, c'est vraiment pour eux, devant la masse d'infos qui est brassée sur la toile, ils ont vraiment un rôle en or à jouer là-dedans, de se remettre au centre du jeu. Et grâce justement à des marques de journaux comme Le Monde, puissantes, reconnues, opérées comme des labels de qualité et dire bah ça, cette info a été vérifiée par Le Monde, vous pouvez être sûr que voilà, on a travaillé, on a été chercher d'autres faits. C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment du fact-checking aussi, ça existe beaucoup aux États-Unis, ça commence à venir en France. Là, pour les élections, il y a un site qui s'est créé qui s'appelle le Véritomètre et qui vérifie les chiffres et les déclarations de chaque candidat pour voir si c'est vrai, pas vrai, moyennement vrai. Bon, voilà, ça va être ça le rôle du journaliste, ça va être un rôle de recoupement de l'information, de vérification et de tri.
Donc en effet, on voit que le journaliste, on va dire le métier ancien, il reprend de la peau de la bête. D'ailleurs, c'est ce que tu as écrit dans ton livre « Journaliste, nous avons besoin de vous » qui est disponible sur Amazon Kindle et Edicool. Et juste à ce titre, il me semble aussi, par rapport à ton expérience, puisque tu es journaliste qui a travaillé dans les entreprises, il me semble que le besoin reste aussi de savoir écrire, d'investiguer en tant que marque. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait avoir une prime pour les bons écrivains dans les marques ? Comment toi ?
Alors, c'est clair que l'expression, la qualité de l'expression compte. D'abord parce que vous êtes compréhensible, déjà, à la base. Et puis après, il y a le plaisir que l'expérience que vous fournissez à celui qui, ou celle qui vous lit. Ça, c'est la première chose. Et puis, des marques, on attend aussi maintenant, justement, elles aussi, que non seulement elles clament, elles revendiquent des propriétés, mais qu'elles les prouvent. Et ça, elles doivent nourrir leur discours avec des faits, avec des choses avérées, faites sur le terrain.
Pour être crédible.
C'est plus, il y a une belle expression que j'aime bien en anglais, mais c'est « walk the talk ». Mais c'est exactement ça. C'est vraiment, je dis ce que je fais ce que je dis. C'est clairement, et ça requiert effectivement une capacité après à mettre ça en forme, à le rendre agréable. Alors, il n'y a pas que l'écriture, d'ailleurs, il y a aussi maintenant, aujourd'hui, avec la puissance de la technologie, on a les formats vidéo, on a le son, on peut tout mélanger, on peut jouer beaucoup avec l'infographie, ajouter de l'écrit. Enfin, on peut vraiment, on a une palette d'outils assez incroyable, mais le fond reste toujours, effectivement, travailler sur du concret, sur des faits. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui m'a d'ailleurs plu et incité à continuer dans la communication, dans laquelle j'étais un peu tombé par hasard au départ, parce que comme tout bon journaliste, je voulais surtout pas entendre parler de communication. Et je me suis aperçu que finalement, on pouvait aussi faire de la communication en important des méthodes de journaliste, c'est-à-dire que bah, dans les journaux internes à l'époque, déjà, moi, je voulais faire des articles qui étaient étayés, qui apportaient une info. Et si on pouvait pas la dire, l'info, bah, on la disait pas, mais on tournait pas autour du pot ou on ne maquillait pas. Ça, je me refusais à faire des choses et j'ai eu le bonheur, notamment chez Nestlé Waters, d'avoir une revue internationale interne qui marchait très bien parce que justement, on l'avait construite comme un magazine économique. On faisait des reportages sur les marchés, mais aussi on parlait de la concurrence. Donc, on parlait vraiment du quotidien. Et les gens qui lisaient la revue aimaient bien parce qu'ils découvraient ce que faisaient leurs collègues à l'autre bout du monde. Mais en plus, il y avait un côté ancré dans la réalité vraie. Et ça, je crois que c'est important pour les marques.
Parce que il y a un concept qu'on a entendu beaucoup aux États-Unis, c'est une marque doit être un éditeur de contenu. Et c'est fou. Enfin, moi, je l'entends depuis longtemps aux États-Unis. Je n'ai pas l'impression de l'entendre beaucoup ici. Et quand tu dis dans ton livre « Journaliste, nous avons besoin de vous », je pense que aussi les marques ont besoin d'éditeurs, d'écrivains. Parce que quand j'écris un blog, il faut avoir un titre qui attrape. Un tweet, c'est 140 caractères. Donc, Il y a une synthétisation des pensées pour être précis, pour être accrochant, parce que ça en fait partie du succès quand on écrit. Donc voilà, Olivier, je pense que moi je te remercie beaucoup d'être venu. C'est très agréable de te parler avec toi et partager là-dessus. J'espère que ça vous était intéressant et n'hésitez pas à poster des commentaires et converser avec nous. Olivier, merci beaucoup. Bon week-end.
Merci.
Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.